Chers amis de l'écologie, des baleines, des enfants, de la terre et de l'eau, et de l'émission Un pas de côté sur Graphite 94.9, bonjour. Bruno Guimin, je reçois aujourd'hui Sandrine Étrillard de l'APBEM, une association basée dans l'Oise à Moulins-sous-Touvent. Celles et ceux, nombreux je n'en doute pas, qui écoutent régulièrement Un pas de côté, remarqueront que nous avons déjà parlé de ce petit village de 231 habitants. Alors pourquoi choisir une fois de plus celui-là parmi les 693 communes que compte notre département? Eh bien, parce qu'il cumule un certain nombre de caractéristiques, en particulier sur le plan écologique, et qu'il en est devenu un quasi-symbole. Avant de passer la parole à notre intervenante du jour, je me contenterai de rappeler que c'est la décharge de Moulins-sous-Touvent dont nous avions parlé précédemment, et de l'appétit insatiable d'extension de son exploitant qui nous avait fait parler de ce village. Nous allons voir aujourd'hui que la décharge n'est pas le seul problème écologique, hélas, qui concerne ses habitants. Sandrine, tout d'abord, je vais te demander, comme nous le faisons d'habitude, en pareil cas, de te présenter.
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Sandrine, je suis dans ma 40e année. Je suis originaire au départ du nord de la France. Donc, j'ai atterri dans l'Oise il y a maintenant 13 ans, même un peu plus. Et non, je suis venue en voiture, j'ai suivi mon époux qui avait son travail donc dans l'Oise à l'époque. Et donc voilà, j'ai habité d'abord à Tichy, puis après nous avons trouvé une petite habitation à Moulins-sous-Touvent il y a 11 ans de ça. Et où j'ai eu mes deux enfants, qui voilà.
Dont Solène qui nous accompagne aujourd'hui.
Voilà.
Sagement.
Tout à fait. Et puis, donc voilà, je suis
attentive aux problèmes d'environnement.
Voilà,
ce que j'ai tout compris. À fait. Très attentive.
Très attentive, parce que amoureuse de la nature, et puis voilà, tout m'intéresse. La nature, c'est une sorte de ressource pour moi, et ça m'apaise, ça m'émerveille, on va dire. Parce qu'il y a tellement de belles choses à voir autour de nous que je pense qu'il faut les préserver et les protéger, voilà.
Alors
transmettre.
Tes goûts et ton arrivée dans notre région t'ont amené sur deux pistes principales écologiques. L'une, malheureusement, un peu négative ou difficile à assumer. Mmh. Et la deuxième, beaucoup plus positive, dont on parlera dans un deuxième temps. Mmh. Donc je te propose de parler de la première. On va commencer par les choses un peu difficiles à entendre et exprimer.
Alors, que...
D'où le nom, excuse-moi, de l'association
qui s'appelle voilà.
L'Association pour la protection de l'environnement et du bâti de Moulins-sous-Touvent. Et si j'ai bien compris, le terme bâti n'est pas là par hasard.
Non, du tout. C'est-à-dire qu'il y a quelques années maintenant, en 2010 ou 2011, on a constaté une diminution des niveaux d'eau sur l'ensemble de la commune. Donc moi, ça apparaissait directement sur la petite mare que j'avais dans le jardin. Et au fur et à mesure de parler avec les habitants, on s'est rendu compte que les puits également étaient en train de baisser et même être totalement à sec pour certains. Et après, on a constaté par la suite que des maisons se fissuraient.
Oui, parce que en fait, j'ai relevé qu'il y a un phénomène qui n'est pas si fréquent que ça, qui affecte la commune de Moulins-sous-Touvent au départ, c'est cette histoire de retrait-gonflement des argiles. Voilà. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce phénomène ?
La commune est située dans une sorte, dans un vallon. Et donc le vallon a des parties où, plus ou moins argileuses, avec des sables et puis un mélange d'argile. Et sur toutes les parties argileuses, donc le fait que les ressources en eau se modifient en fonction du climat ou des précipitations, les argiles peuvent d'une part gonfler et aussi se rétracter. Et le fait de qu'ils bougent comme ça, il provoque des fissurations en surface.
Oui, parce que si j'ai bien compris, là, j'ai regardé un petit peu dans le... En fait, il y a une douzaine de communes de l'Oise qui sont concernées par le même type de phénomène.
Voilà. Donc la commune de Moulins-sous-Touvent en 2009 a été... 2009-2010 a été informée par la préfecture qu'elle était touchée et faisait partie des 12 communes de l'Oise les plus touchées par ce retrait gonflement et qu'elle était donc... une des communes qui allait bénéficier d'un plan de prévention des risques argiles sur la commune.
En fait, les deux phénomènes, vous avez constaté ce phénomène, vous, sur place, cette histoire de baisse des niveaux d'eau, et quasiment en même temps, on vous a tenu informé du fait qu'il y aurait ce PPRT qui serait mis en place.
Voilà, tout à fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on a constaté une diminution des eaux, c'est une année 2011, le printemps 2011 a été très sec. Donc on a supposé que c'était au départ à cause du climat. Puis par la suite, il s'est avéré, je vais en parler tout de suite, que nous avons eu des suspicions sur autre chose. C'est-à-dire qu'il y a eu un forage agricole auquel on a donné l'autorisation de se faire au centre du village. Et on suspecte ce forage d'assécher en surface les nappes phréatiques.
Alors quand on dit forage agricole, ça veut dire que c'est un agriculteur ou des agriculteurs qui demandent l'autorisation à l'administration de percer en fait le sol, d'atteindre, j'imagine, la nappe phréatique ou des nappes profondes pour pouvoir retirer de l'eau et, j'imagine, arroser les champs.
Voilà, tout à fait. Donc là, le forage a été mis dans le bas du village, vraiment dans le centre, donc dans le vallon, pour alimenter un bassin de rétention d'eau qui est sur les hauteurs du village. Donc le forage est à 70 mètres de profondeur à peu près. Mais le souci qu'il a, c'est que apparemment, il créerait un cône d'aspiration autour de ce forage. Il serait qui provoquerait la déviation peut-être des eaux de surface vers ce puits.
Alors si je comprends bien, il doit y avoir un phénomène, on va dire naturel, mais dont vous pensez, vous en tant qu'association, qu'il est aggravé par ce forage. Le forage date de quand? On sait de quand il
le forage
était.
Date de 2010. Donc, à presque à la même période, la préfecture annonçait à la commune qu'elle était en plan de prévention des risques argiles, donc retrait gonflement des argiles, et en même temps, on autorisait un agriculteur à forer dans le village. Donc, c'est les deux autorisations, du moins, l'autorisation et l'annonce à la commune me paraissent contradictoires.
Et comment est née l'association?
Donc l'association, progressivement, on a monté un petit collectif, on a fait des propositions et puis les gens nous ont dit que c'était une bonne idée d'essayer de se regrouper pour au moins avoir une force de parole en quelque sorte et être considéré par rapport à la commune, par rapport aux administrations supérieures et puis se faire entendre tout simplement.
Alors, l'association a-t-elle été abondamment et fortement soutenue par la commune de Moulins-sous-Touvent ? Nous allons en parler dans quelques instants après une première pause musicale. de retour sur Graphite. Donc cette association, j'ai toujours du mal à la prononcer, l'APBEM.
On l'appelle l'APBEM.
Alors l'APBEM, voilà. Donc c'est monté, et bien sûr une telle association a dû être accueillie à bras ouverts par la municipalité, parce que d'une certaine façon vous faisiez une partie du travail de la municipalité.
Malheureusement pas vraiment.
C'est pas possible.
Ben non, parce que apparemment on est gênant, on a dénoncé des choses qu'il ne fallait pas dénoncer, et on a l'impression que voilà, c'est causer un problème supplémentaire sur la commune, alors que bon, on ne l'a pas cherché à la base, on n'a pas envie des problèmes, nous, on a envie de vivre dans un bel environnement.
Mais surtout les gens qui ont des maisons qui se fissurent, je pense que c'est pas...
C'est un stress permanent, surtout pour les maisons les plus proches du forage, qui sont les plus touchées. Dont des fissures de plus de 1 cm de large sont apparues sur les piliers porteurs, sur les appuis de fenêtres, voilà.
Et dans ces cas-là, les assurances, que disent les assurances? Parce qu'inévitablement, les gens doivent faire appel à leur compagnie d'assurance.
À partir du moment où il va y avoir un plan de prévention des risques, normalement, il devrait y avoir des fonds de débloqués, dits fonds Barnier. Mais tout ça, c'est très long. Donc le temps que les dossiers se montent, qu'il y ait des études préalables, que la commune organise les choses, mais à sa vitesse, et que la préfecture après suive le dossier, il peut se passer 2 voire 5 ans entre le début des constats, et puis...
Donc dans l'état actuel des choses, les assurances ne prennent pas en charge les dommages?
Elles ne peuvent pas. On a posé la question nous-mêmes, en tant que personnellement, à notre assurance, et on peut déclarer un sinistre, mais faire appel à un expert ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien pour l'instant.
Donc en fait, des gens par exemple qui ont une maison dans cet état-là, s'ils souhaitaient la revendre, j'imagine qu'ils auraient beaucoup de mal, ou à l'état de ruine, sans qu'ils puissent pour l'instant se retourner contre personne.
Non.
Mais alors,
on ne veut pas prendre en considération peut-être la source. Maintenant, on estime que c'est toujours le climat pour l'instant qui est la faute. La commune le croit fortement.
D'accord. L'agriculteur donc qui a demandé et obtenu cette autorisation de la part de l'administration, il ne faisait pas partie du conseil municipal à l'époque?
Si, avant, précédemment. Voilà, l'ancien mandat, oui.
Donc en fait, c'était une situation, j'imagine, avec particulièrement moi, délicate, parce que en fait, si certaines personnes pouvaient penser que le forage était la cause, au moins un ex de ces dommages, il y aurait pu avoir une réaction.
Ça a été déclaré, moi, en fin de mandat, puisque c'était la dernière année du mandat. Dans les 2 dernières années que j'ai pu annoncer le problème et puis essayer de le faire, de le rendre un petit peu. Que le maire en fait s'en occupe, mais apparemment ça a été totalement négligé sur la fin du précédent.
Donc si je comprends bien, la municipalité, d'une certaine façon, ça ne les intéresse pas. L'association, vous êtes plutôt mal vu parce que vous avez soulevé un problème qui, semble-t-il, n'existe pas selon eux. Mm-hmm. Et l'agriculteur, lui, se retranche derrière les autorisations de l'administration en disant que s'il a été autorisé par l'administration, c'est que tout va bien. Mm-hmm. Alors, si j'ai bien compris aussi, à un moment, on fait appel à des experts, en l'occurrence le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, qui est un organisme d'État. Ils sont venus sur place.
Oui, on a demandé, quand même, on a écrit au nom du collectif au départ, pour demander des explications. Donc effectivement, la DDT a organisé une réunion
publique.
Attends,
DDT, c'est
Direction départementale des territoires. D'accord. Donc elle a organisé une réunion publique. Et pour nous expliquer un petit peu les suites à donner. Avant cela, donc, elle avait diligenté le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, pour trouver les causes de l'assèchement soudain de la commune.
Oui, parce que c'est quand même un phénomène, récent.
C'est récent, c'est soudain, puisque la commune, depuis des années, est considérée presque avec des zones marécageuses et très humides. On est en fond de vallon. C'est la vallée du Rue de Bitry, donc c'est vraiment une vallée humide avec des coteaux sur les côtés qui sont plutôt filtrants, calcaires donc filtrants, donc ce qui fait que normalement c'est une vallée qui se remplit d'eau régulièrement.
On n'avait jamais constaté ce genre de phénomène auparavant.
Non. Les anciens utilisaient l'eau de leur pluie pour arroser leur jardin, pour voilà, c'était régulier. Il y avait un lavoir, il y avait un petit moulin, de ce qu'on m'a raconté. Donc, pourquoi le village, d'un seul coup, n'a plus d'eau dans ses marécages, n'a plus d'eau dans ses rues, n'a plus d'eau dans ses fossés, c'est étonnant quand même. Et ça a été brutal. Et moi, je l'ai plus constaté, comme par hasard, à l'origine de l'installation de ce forage.
Mais il doit y avoir en plus des gens, parce que maintenant, c'est vrai qu'on est habitué à boire de l'eau, à avoir de l'eau d'un forage unique avec une distribution générale, mais quand même, il doit y avoir des gens qui ne sont pas touchés par le phénomène direct de fissuration sur leur maison, mais qui devaient compter sur leur puits pour arroser, sur leur mare peut-être pour élever des canards ou autres. Il n'y a pas de gens, les gens ne réagissent pas plus que ça.
Apparemment, non. Non, non. À part ceux qui ont adhéré à l'association, pour l'instant. Pourtant, on a fait une promotion à la création, on a distribué dans les boîtes aux lettres et actuellement on compte 33 adhérents et dont quelques-uns de l'extérieur à la commune. D'accord. Qui nous soutiennent également.
Mais 33 adhérents, ça veut dire quand même que vous avez en gros 10% à peu près des habitants du village, ce qui est 10% des habitants adultes.
Oui,
donc même,
fait,
ça
oui.
fait un peu plus que ça. Bon, mmh. C'est pas non plus...
On va dire en nombre de maisons, c'est entre 10 et 15 maisons.
Ouais. Ouais. Et alors, ce BRGM, on n'a pas terminé. Le BRGM est venu. Quelle a été leur conclusion,
les conclusions
de ces experts?
Alors, leur conclusion déjà, bon, ils ont étudié un peu le dossier d'impact environnemental qui avait été fait. Ils ont constaté qu'il y avait quelques erreurs dans la constitution du dossier. Et par la suite, dans le dossier, ils disent bien qu'il se peut qu'il y ait une corrélation entre l'installation du forage, mais qu'il est nécessaire de faire des études complémentaires. Donc pose de fissuromètre, pose de piédsomètre supplémentaire dans le sein
de la
commune.
Alors attends, fissuromètre, encore on comprend un petit peu, on imagine que c'est un appareil destiné à augmenter, à mesurer
la
fissuration des maisons.
La fissuration,
mais
oui.
Piédsomètre.
Alors un piédsomètre, c'est des appareils qui sont mis en profondeur pour mesurer, alors ce que je connais, parce que c'est vrai qu'en termes techniques, apparemment les niveaux d'eau, mais localement, quoi, par point précis. Voilà.
Et alors ces mesures vont être effectuées ?
Pour l'instant, normalement, ça serait la commune qui devrait prendre ça en charge en diligentant des entreprises et en faisant des appels.
Et la façon dont parles...
On a cru comprendre au dernier conseil municipal qu'il y avait eu deux devis de proposer. Et que la mairie, pour l'instant, était prête à choisir le devis le moins cher et qui ne prenait pas en compte une étude approfondie des zones touchées. Donc on a l'impression que cette étude va être un peu bâclée et on reste à l'écoute, on reste en surveillance. Justement, l'association sert à ça, c'est de voir un petit peu ce que la commune a l'intention de prendre en charge et puis contredire les choses si on n'est pas d'accord. Et tout ça pour le bien-être des habitants par la suite. Voilà.
Oui. Alors... On va laisser encore une petite place à la musique pendant quelques instants et après on va parler d'un petit rebondissement qu'il y a dans cette histoire. Thank you. Alors, de retour parmi vous sur Graphite 94.9, le rebondissement dont je parlais dans l'histoire de Moulins sous Touvent, c'est que Sandrine vient de nous parler d'un puits qui a été percé à l'initiative d'un agriculteur. Mais je crois que le comble, si j'ai bien compris aussi, c'est qu'il y a un deuxième puits qui est envisagé ou qui est même peut-être déjà percé.
Alors, il y a dans l'arrondissement de la commune un deuxième puits par le même agriculteur qui a été fait sur le plateau. Donc il y a un peu plus loin de la commune. Donc il n'a pas un impact, on va dire, direct. Il a un impact sur les nappes, forcément. Mais au niveau du cône d'aspiration qui est créé par le premier, là, c'est pas la même chose. Hein. Mais tout ça, c'est toujours des... voilà, on suppose que ça se passe comme ça. Et après, il y a même encore un... On a appris qu'il y avait eu un dépôt de déclaration de forage, mais par un autre agriculteur et beaucoup plus loin de la commune, mais toujours sur le territoire de la commune. C'est-à-dire que malgré toutes les remarques qu'on a pu faire, on a l'impression qu'il y a eu provocation dans les démarches et puis dans les autorisations administratives qui ont été données. Pour moi, c'est presque une provocation, étant donné qu'on avait dit attention, il faut déjà faire attention avec celui-là, et on a quand même permis à d'autres de venir puiser dans les nappes de la commune.
Et puis pourquoi ne pas continuer dans ces conditions-là, puisque apparemment le BRGM n'est absolument pas affirmatif, que le plan de prévention des risques n'est toujours pas en place. Mmh. Et vous avez des perspectives de ce point de vue-là? Qu'est-ce que l'administration vous promet ou vous annonce pour...
Donc là, apparemment, le plan de prévention des risques va commencer à se mettre en place dans la démarche. Et il y a une réunion, d'ailleurs, la semaine prochaine en sous-préfecture de Compiègne, et où ils vont nous expliquer, avec deux autres communes dont j'ai oublié les noms, mais qui sont touchées également par ce plan de prévention.
Voilà, parce que c'est une question aussi que qui m'est venue à l'esprit. Il y a donc une douzaine de communes dans l'Oise, si j'ai bien compris, qui sont touchées par le même phénomène de retrait-gonflement des argiles. Est-ce que tu sais si ces communes, s'il y en a certaines qui sont placées dans les mêmes situations que vous? Alors c'est difficile à dire parce qu'elles n'ont pas le même profil géographique, géologique, etc. Mais est-ce qu'il y en a certaines qui auront également des phénomènes de fissuration? Est-ce que tu
Alors,
sais?
Alors certaines ont peut-être des phénomènes de fissuration, mais on a contacté certaines mairies pour connaître un petit peu dans quel état elles se trouvaient. Et les fissurations sont pas si importantes que ça. C'est plus une précaution de mettre en place un plan de prévention des risques, parce que le sol est connu comme argileux, et que le retrait et gonflement des argiles peut être plus important, étant donné que maintenant on a un climat très variable et voilà, qui est, avec lequel il faut faire attention et prendre garde. Le problème est aggravé, à mon avis, par ce phénomène. Mais bon, on n'est pas cru, on n'est pas entendu là-dessus.
Parce que dans un plan comme celui-là, alors c'est un avantage pour la commune parce qu'on reconnaît, enfin en tout cas pour les habitants de la commune, parce qu'on reconnaît le péril dû à ça. Mais est-ce qu'il n'y a aussi pas un impact sur l'urbanisme? Parce que j'imagine qu'une commune qui est concernée par un PPRT, les habitants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent au point de vue bâti. Ça doit bloquer aussi, j'imagine, peut-être la construction à certains endroits sur la totalité de la commune.
Ce qu'on a cru comprendre, c'est qu'à partir du moment où un plan de prévention des risques était établi sur une commune, après il était mis en place un plan local d'urbanisme pour justement réglementer toutes ces constructions. Et notamment, il ne faut pas planter d'arbres trop près d'une maison, il faut faire attention aux assainissements, les écoulements des gouttières sont surveillés. Mais ça, justement, c'est un contrôle et c'est un coût supplémentaire au niveau, au moment de l'installation et de la construction des maisons. Et je pense que pour l'achat aussi des maisons, forcément, voilà, on doit prévenir aussi le nouveau propriétaire des risques qu'il peut encourir sur son habitation.
Mais avec une compensation, tu parlais tout à l'heure d'une compensation financière, c'est seulement pour les maisons qui sont touchées par les phénomènes
tout
de fissuration.
Ouais. C'est une compensation financière qui sert à l'étude, tout d'abord, donc pour la commune, qui est chargé de l'étude en partie, hein, avec les services de la DDT. Et ensuite, il y a une compensation financière pour le propriétaire s'il a des travaux à effectuer. Sachant que les travaux, des fois, à mon avis, peuvent être très importants au niveau de la somme. Et là, la compensation financière, et il me semble que... On nous a dit que certains propriétaires, si la hauteur des travaux était supérieure à la valeur de la maison, ils pouvaient être malheureusement expropriés. Ça peut aller jusque-là. Donc c'est la crainte que l'on a, et sachant que tout ça, on l'a appris en lisant des documents, et que pour l'instant, on n'a eu aucun dire direct.
En fait, votre handicap principal, c'est celui, à part évidemment le phénomène lui-même, c'est que la municipalité, vous n'ayez aucun écho positif, aucune collaboration, aucune participation de la part de la municipalité.
Elle donne l'impression de faire quelque chose, mais sans dialogue, sans vouloir déjà dialoguer avec nous. On a l'impression qu'on est de trop, qu'on les gêne. Donc on aurait aimé quand même avoir un relationnel plus intéressant pour pouvoir avancer, au lieu de se servir de nos connaissances et puis voilà, de s'aider. Ça permettrait aussi aux habitants d'être rassurés, qu'ils soient touchés ou pas touchés, parce que le phénomène peut s'aggraver d'année en année sur les autres habitations. Et puis voilà, c'est pour prévoir tout ça.
C'est une affaire qui laisse beaucoup de points d'interrogation derrière elle, ou même plutôt devant elle, et d'inquiétude.
Ouais. Et d'inquiétude.
Alors, après une nouvelle petite pause musicale, nous allons aborder un sujet un peu plus positif, si j'ose dire, un peu plus optimiste, celui du Conservatoire des sites naturels de Picardie et du Larry de Moulins-sous-Touvent.
Tout à fait.
Thank you.
De retour avec Sandrine, la présidente de l'Association pour la protection de l'environnement et du bâti de la commune de Moulins-sous-Touvent. Moulins-sous-Touvent, qui, je le rappelle, est une petite commune de l'Oise qui est située dans un vallon, en grande partie dans un vallon, et puis aussi un petit peu en plaine. C'est une commune qui est agricole. Beaucoup d'activités agricoles, oui. On vient de le voir, puisqu'il y a des agriculteurs qui ont besoin d'eau pour arroser leurs champs. Et donc, Sandrine, tu es conservatrice d'un site, ça fait très bien, conservatrice bénévole, non rémunérée, bien sûr, et d'un site, tu veux nous parler déjà peut-être du conservatoire des sites naturels de Picardie.
Alors, le conservatoire, c'est une belle association dont je suis fière d'y être adhérente. Elle existe, l'année dernière on a fêté ses 25 ans d'existence et elle compte en gestion plus de 250 sites sur l'ensemble de la Picardie.
Dont elle n'est pas forcément propriétaire.
Non, donc là, des fois c'est des propriétaires, particuliers, des agriculteurs ou alors des communes. Et donc elle intervient sur des sites qui peuvent être des marais, des coteaux calcaires, des tourbières, des coins de forêt, et où elle gère donc la faune et la flore et l'intérêt écologique que peuvent avoir ces espaces. Donc nous, on a la chance sur Moulins-sous-Touvent d'avoir un superbe coteau calcaire, je le dis fort, voilà, un lari qui s'appelle aussi Savard pour certains, parce qu'on
est un peu à la limite entre l'origine. Le département de l'Oise et le département de l'Aisne.
Le mot Savard, à ce qu'on m'a dit, c'est plus champenois. Donc, comme on est à la limite de l'Aisne, forcément, de temps en temps, il y a des consonances champenoises qui arrivent.
Si on parle d'un lari ou d'un savard,
c'est un coteau calcaire, généralement orienté vers le sud. Là, on a deux. Nous, à Moulins, il y a deux coteaux orientés sud-sud-est et qui font à eux deux à peu près un peu plus de 9 hectares. Voilà.
En tout.
Voilà. Et donc avec une richesse d'un propriétaire, d'un agriculteur qui a donc fait signer un bail emphytéotique depuis...
Qu'est-ce que c'est qu'un bail emphytéotique ?
Alors là, précisément, je ne sais pas, mais bon, c'est un contrat qui est signé entre le conservatoire et le propriétaire. Pour garantir que le conservatoire va gérer le site, s'en occuper.
C'est sur une longue durée, j'imagine.
Pour le coup, c'est sur une durée de 20 ans.
Donc, laisse une certaine marge pour le conservatoire.
Le bail de ce terrain a été signé en novembre 2002. Voilà. Donc, depuis ce temps-là, le conservatoire établit après un plan de gestion du site qu'il soumet aux propriétaires aussi.
Tu nous as expliqué, c'est un lari, on a bien compris, c'est un coteau calcaire exposé au sud, mais c'est tout ?
Alors, il est riche.
Il est très riche. Approche, alors. Quelle est sa richesse ? Il y a des trésors, il y a des monnaies romaines,
Des plantes rares. Menacés en Picardie, notamment, qu'il faut protéger à tout prix et puis sauvegarder.
Tu peux nous donner des exemples ?
Des exemples. Alors, je viens d'intégrer le site, donc c'est vrai que j'ai pas encore tout en tête, mais on va dire certaines orchidées sauvages. La germandrée des montagnes. Une plante, je ne sais plus le nom. Ça me reviendra par la suite.
Et puis il y a des espèces. J'imagine que de toute façon, il doit y avoir des espèces qui sont inféodées à ce genre de milieu, des insectes.
C'est un milieu
des oiseaux.
Très particulier, calcaire, donc avec des zones totalement, avec des pelouses très rases, sèches. C'est des espèces qui sont vraiment adaptées à ce milieu, à un milieu chaud. En faune, on peut trouver par exemple le lézard des souches, on peut trouver une espèce de... comment dire, bah, la menthe religieuse également.
Qui qu'on ne voit plus guère voilà, dans la campagne.
Et qui adore tous ces espaces un peu chauds où elle peut se mettre au soleil sans souci.
Alors c'est bien parce que en fait, un lari, ça s'entretient tout seul.
Bah, pas vraiment.
Ah bon, j'aurais cru qu'on le classait comme ça et puis que le conservateur n'avait qu'à venir faire un tour de temps en temps.
Malheureusement, un lari, si on le laissait un peu à l'abandon, forcément la pelouse plus haute prendrait le dessus sur la pelouse plus rase, la végétation arbustive arriverait aussi à prendre le dessus sur ce coteau, et puis ensuite c'est un espace un petit peu forestier qui s'implanterait sur l'ensemble, donc ce qui verrait toutes les espèces un peu spécifiques à ce milieu disparaître.
Mais pourquoi est-ce que ce phénomène ne s'est pas produit pendant les années qui ont précédé?
Alors pendant des années, c'est un coteau qui était pâturé. Donc jusqu'en 1979, il me semble, de ce que j'ai lu, il y avait du pâturage. Donc 600 brebis en permanence pâturaient l'été sur ce coteau. Voilà. Donc entre les deux, de temps en temps, apparemment, il faisait un peu de brûlis, donc où il brûlait des surfaces pour arraser les pelouses et puis remettre un petit peu à neuf sûrement la végétation et éviter que la végétation plus haute prenne le dessus.
Alors,
pas trop les termes techniques, parce qu'il y a des termes beaucoup plus scientifiques que ça.
Les éditeurs de graphite pardonneront de t'employer des mots simples. Donc là, il n'y avait plus de pâturage.
Il n'y avait plus de pâturage, mais le conservatoire, quand il est arrivé donc en 2002, qu'il a signé son contrat avec le propriétaire, ils ont essayé de remettre rapidement un pâturage en route. Et ça a duré quelques années, le temps d'étudier le site, de faire l'inventaire de tout ce qu'il y avait. Et progressivement, au départ, ils intervenaient manuellement, donc ils débroussaillaient un petit peu les surfaces. Mais au bout d'un moment, ils ont décidé de se refaire à nouveau aider par les moutons, la race solognotte à l'époque d'ailleurs, qui sont des moutons à tête noire, magnifiques. On a pu surveiller tout l'été dernier, c'était très agréable.
Il y en a beaucoup.
Et l'année dernière, nous en avions 26.
Et 26 suffisent à...
Alors, on les a mis en différents parcs. C'est-à-dire, on avait créé différents parcs. Les techniciens du conservatoire qui viennent sur site jugent l'espace qui en a le plus besoin en fonction des années. Et puis là, les moutons, on les met à pâturer l'endroit le plus nécessaire.
Alors, moi qui ne connais pas grand-chose à l'élevage du mouton, je m'imagine simplement qu'un mouton, ça mange à peu près tout, un peu comme les chèvres. Et donc, ces malheureuses orchidées, elles disparaissent aussi sous la dent des moutons, non ?
Non, pas vraiment, parce qu'en fait, on s'arrange pour que les moutons interviennent après les plus grosses floraisons. Et généralement, les espaces où les espèces les plus menacées sont présentes, on essaye de les préserver en exclos. Ils appellent ça des exclos chez les techniciens du conservatoire.
C'est l'inverse d'enclos.
Voilà, on met des petites clôtures pour éviter que les moutons aillent à tel ou tel endroit pour pas détruire telle ou telle plante.
Donc vous avez le bon côté du mouton et vous n'en avez pas le mauvais.
Tout à fait.
Très bien. Alors, avant d'aborder la suite de la présentation de ce lari de Moulins sous Touvent, encore une petite partie musicale. pour la balade sur le Lary de Moulins, sur le Lary ou le Savard. On a bien compris qu'il y avait deux termes assez différents l'un de l'autre pour désigner ce coteau calcaire, en compagnie de Sandrine, qui est donc non seulement présidente de l'association, dont je ne redirai plus le nom, mais qui est en l'occurrence, qui a la casquette de conservatrice bénévole du Lary de Moulins-sous-Touvent. C'est un lieu, on a bien compris, qui doit être magnifique en plus.
Avec une vue surprenante.
Parce qu'en fait, comme c'est en hauteur, j'imagine qu'on doit voir très loin.
On a une vue sur les vallons, sur les bois alentour, et c'est très agréable.
Alors, la question suivante, c'est est-ce que ça se visite, hein, Lary ?
Un Lary, ça se visite tout à fait avec les petites sorties organisées par le conservatoire. Ils en organisent énormément. On a un petit livret de sorties nature qui est édité tous les ans. Et sorties nature et chantier nature.
Donc, alors, dans une émission ultérieure, je pense que je prendrai contact avec les responsables du conservatoire pour qu'ils exposent plus généralement l'activité du conservatoire. Mais s'agissant précisément du Lary de Moulins-sous-Touvent, parce que si je comprends bien, c'est quand même un milieu relativement fragile. Donc, il est quand même pas conseillé d'emmener se balader ou de laisser des gens se promener comme ils le veulent, n'importe quand, sur ce... Comment des gens qui voudraient vous découvrir ce lieu, mais tout en le respectant, peuvent-ils... Alors, ils consultent ce livret. Est-ce qu'ils peuvent te téléphoner, prendre contact avec toi d'une façon ou d'une autre ?
C'est de contacter le conservatoire directement, qui me contacte
qui te répercutera
après. Voilà, qui me répercute par la suite, tout à fait.
Et donc, c'est toi qui organise, qui va faire visiter le site, faire découvrir les moutons, les solognaux.
J'ai pas un rôle vraiment pour l'instant de faire découvrir tout ça, mais je peux le faire à mon niveau, on va dire. Mais il est plus intéressant d'intervenir sur le site avec un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît, pour découvrir vraiment toute la richesse du site.
Et tu vas devenir professionnel petit à petit.
Peut-être, oui, c'est ce que j'ai envie, c'est d'apprendre au maximum. Et puis
donc l'année prochaine, on prend déjà rendez-vous avec Léo à la technique, avec Sandrine qui verra nous détailler précisément toute l'espèce. Ça va être rébarbatif au possible, mais on apprendra tous sur le Lary.
Mais j'ai bien envie, en tout cas, de faire découvrir ce milieu à des amoureux de nature. Et puis, c'est le but à la fin, c'est de montrer que dans notre région, on a des chouettes coins.
Et puis, de toute façon, je crois que le principe du conservatoire, c'est justement d'essayer au maximum de trouver des gens locaux pour assurer ce service de conservateur.
Tout à fait. Moi, j'ai la chance que j'ai, c'est d'être proche et d'être sur place, d'habiter le village. Donc, pour une surveillance régulière, si jamais on me demande de rendre une visite au site pour surveiller peut-être la floraison de telle ou telle fleur, je peux m'y rendre facilement. Alors que le conservatoire, avec tous les sites qu'ils ont à gérer, des fois il est compliqué de se véhiculer et puis de vérifier tout à un instant T, parce qu'il se peut que des fois des floraisons soient un peu à l'avance, un peu en retard, et au moins on gère autant présent. Et puis le but du conservateur bénévole, c'est d'être un relais local. C'est vraiment, sans pour autant avoir d'énormes connaissances scientifiques, mais progressivement on les apprend, on en acquiert. Mais sinon, le but, c'est d'avoir une petite surveillance, d'avoir un œil, d'aller voir si les moutons vont bien, si la clôture n'a pas été abîmée, la clôture électrique n'a pas été abîmée pendant l'été, s'il y a du grand vent. Bon, comme l'année dernière, on a eu un arbre qui était tombé sur la clôture qu'il avait mise au sol. C'était de prévenir. Non, j'ai eu la chance que j'ai pu le bouger facilement avec les mains, puisqu'il était, c'était assez léger. Voilà. Pas de souci.
Et en fait, tu as quand même aussi un peu la responsabilité d'éventuellement de recruter ou de diriger des bénévoles qui pourraient venir donner un coup de main pour nettoyer ou entretenir le site.
Alors, pas pour l'instant. Pas pour l'instant.
C'est pas
parce
le diplôme.
Que, ben, c'est pas le diplôme, c'est que je m'en sens pas la capacité. J'ai besoin d'abord d'être sûre de moi et pour pouvoir mener comme ça directement des chantiers nature. Certains conservateurs bénévoles du conservatoire le font déjà, mais sous la surveillance, bien sûr, du conservatoire. Oui. C'est-à-dire les techniciens, les guides, leur dit tel et tel endroit à débroussailler, par exemple. Et voilà, c'est toute la gestion. Et quand même, il y a une surveillance derrière. Et je pense qu'il faut une certaine expérience du site avant de pouvoir le faire seul. On a encore besoin pendant quelques années d'être accompagné d'un technicien de terrain. Voilà.
Parce que sans dévoiler trop ce que nous évoquerons à propos du conservatoire, je crois qu'il y a dans le guide, à l'un des guides qui sont édités par le conservatoire, il y a des chantiers, il y a à la fois des propositions de visite de site, mais aussi de chantiers pour des bénévoles qui souhaiteraient donner un coup de main.
Et on peut être bénévole, venir participer au chantier, venir participer aux balades, sans pour autant être adhérent du conservatoire. Tout le monde est invité. Maintenant, il est mieux aussi d'adhérer. Hein. Plus on sera nombreux en tant qu'adhérents, mieux ça sera. Mais voilà, tout le monde peut venir et découvrir les paysages de nos régions.
Donc voilà des propositions pour les auditeurs de Graphite. Adhérer éventuellement à l'association, je vais le redire, l'APBEM, qu'on trouve sur Internet. Comment est-ce qu'on trouve les coordonnées de ton association?
Pas pour l'instant, on n'a pas encore...
Puis il ne faut pas écrire à la mairie, parce que la mairie, apparemment, vous renverrez peut-être
on
pas...
On ne sait jamais.
De toute façon, vous devez être connu dans le village. Si quelqu'un veut écrire à la PBEM, ils vous trouveront.
Oui, tout à fait.
Bon. Et puis, bien sûr, devenir aussi, sans aller jusqu'à être tout de suite conservateur pour le conservatoire des sites, mais au moins le découvrir, être adhérent. Ils ont toujours, eux aussi, c'est une très grosse adhérent, mais une très grosse association, mais ils ont toujours besoin d'adhérents.
Ils ont besoin de monde et puis de main d'œuvre, ça y a pas
et
de
puis eux, on peut trouver le. Eux, ils ont un site internet qui est, j'imagine, très complet.
Et la nature a besoin de nous, je pense.
Et la nature a besoin de nous de plus en plus.
On a besoin de la préserver. Voilà. Et voilà, c'est des associations comme celle-là qui œuvrent à ça.
Ben, c'est une très belle défense et promotion du conservatoire. Avant de nous quitter. Après cette émission consacrée à l'association, deux associations en fait, une association locale de Moulins-sous-Touvent et puis le Conservatoire des sites naturels de Picardie, je vais laisser la parole pendant quelques instants à Sandrine, notre invitée, et à sa fille Solène qui vont nous parler de leurs aventures sur le lari de Moulins-sous-Touvent en compagnie des moutons soloniaux.
Alors tu te souviens Solène l'année dernière?
Oui, on avait nourri les moutons avec des grains.
De la luzerne, oui. On était allé les surveiller, on a surveillé la clôture. Et c'est fatigant, ton avis?
Bah oui, c'était un peu fatigant de faire les descentes pour aller vérifier la clôture et tout. C'était fatigant.
C'était fatigant. Puis la remontée, la pente, c'était dur aussi. Hein. Mais bon, c'est
Mais
amusant
moi, j'aimais
quand même.
Bien.
C'est amusant. Puis les moutons, ils sont sympathiques. Mm. Hein? Très agréable.
Il y avait nos deux préférés. Maman, elle en avait un et moi, j'en avais un aussi.
Oui, ils venaient tout le temps nous voir. Mm. C'était agréable.
C'était mignon.
Oui.
Merci Solène, merci Sandrine. À bientôt sur Un Pas de Côté avec Graphite 94.9.